six dimanches, et les deux premiers étaient centrés sur la résurrection. C'était encore, on relisait des évangiles qui étaient proches de la passion et de la résurrection, puisque nous avions vu d'une part, nous avions vu Thomas, hein, Thomas qui était l'occasion pour de la plus grande, peut-être, profession de foi qu'on trouve dans toute l'Écriture. Lorsque Thomas dit devant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis nous avions eu dimanche dernier les femmes mirophores au tombeau. Maintenant, ça va changer de tonalité. On va entrer dans une période où les évangiles qui se succèdent ces dimanches-là sont centrés sur le mystère de l'eau, on pourrait dire. Voilà. Premier, c'est ce paralytique qui est à la piscine de Bethesda, la piscine des brebis, que Jésus vient trouver, lui qui est le berger de toutes les brebis. Et puis dimanche prochain, ce sera la Samaritaine, hein, à qui le Seigneur vient faire boire l'eau vive. Et puis il y aura encore l'aveugle de naissance qui lui ira se laver les yeux à une autre piscine de Jérusalem, la piscine de Siloé. Voilà, après ce sera l'ascension et puis la tonalité changera juste avant qu'on arrive à la Pentecôte. Cette notion de l'eau est certainement liée au baptême, bien sûr. Baptême de l'eau, sans doute beaucoup, Pâques était autrefois le moment privilégié pour les baptêmes. Et pour nous, qui avons déjà été baptisés au préalable, Pâques est l'occasion de renouveler, si on peut dire, de renouveler notre baptême. Et dans cette période entre Pâques et Pentecôte, nous sommes entre le moment du baptême d'eau et le moment du baptême de l'Esprit, hein, du moment où le feu descend pour répandre en nous l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, ce paralytique, comme plus tard l'aveugle de naissance, on les trouve dans les évangiles de Jean, dans l'évangile de Jean. Et Jean, il n'appelle pas cela des miracles, il appelle ça des signes. Voilà. Il appelle ça des signes. Et cela, ça a un sens profond. Un sens profond, c'est-à-dire que cet événement, cette action du Christ, elle a un sens profond qui va bien au-delà de l'événement qui est relaté et qui a eu lieu à tel moment, à tel endroit, Jérusalem, voilà, la piscine des brebis. Mais cet événement, il est de tous les temps. Je dirais, il nous touche. Le Christ est ressuscité. Tous les événements de sa vie, je dirais, sont hors du temps et sont pour nous toujours d'actualité. Il ne faut pas les voir comme voilà, un événement ponctuel et momentané. Ce sont des événements de tous les temps. Et ces événements, ils nous touchent, ils nous concernent personnellement. Ce paralytique, il faudrait mettre notre nom à la place de ce paralytique, qui n'est pas nommé d'ailleurs, anonyme. Ce paralytique anonyme, évidemment, c'est nous. Depuis 38 ans, ça veut dire, peu importe le nombre d'années, bien qu'on pourrait trouver une explication à ce chiffre, mais on n'est pas là pour ça. Mais 38 ans, ça veut dire toute une vie, pratiquement. Toute une vie où voilà, nous sommes dans l'expectative d'un événement miraculeux. Un ange venu du ciel qui peut-être, par chance, va nous permettre de retrouver notre santé. Mais on sait bien que c'est très hypothétique, mais voilà, c'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner, et non pas une attente même d'un ange, mais c'est vers le Seigneur qui est notre guérison, comme le montre cet événement. On pourrait aussi parler de notre paralysie physique, mentale, spirituelle. Bon, c'est surtout de notre paralysie spirituelle qu'il s'agit là. Tous ces éléments qu'il y a dans ce signe donc de la guérison du paralytique, on pourrait les analyser dans le détail et verset par verset. Je ne vais pas le faire, c'est pas le lieu, encore une fois. Mais je voudrais prendre le début et la fin, parce que c'est peut-être les moments les plus importants pour notre relation avec le Seigneur Jésus. Le premier moment, c'est lorsque Jésus voit cet homme. Il s'approche de lui et il l'interroge. Voilà, Jésus le voit. On peut s'interroger. Jésus nous voit. Comment Jésus nous voit-il? Comment s'approche-t-il de nous? Que nous demande-t-il? C'est très différent de ce qui se passe lorsque nous nous approchons de quelqu'un qui est malade, que nous voudrions aider à guérir ou simplement à soulager. Quelle que soit notre compétence, nous restons toujours extérieurs à la personne qui souffre. De Jésus à nous, c'est tout à fait différent et unique. Jésus, il devient intérieur à nous. Il connaît de l'intérieur nos infirmités, quelles qu'elles soient. Il les porte en lui. Son regard nous cherche et se porte sur nous tout à fait de la même manière que le regard du Père se pose sur Jésus quand il est dans le tombeau et lui envoie l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui le ressuscite. Il faut nous offrir à ce regard d'amour qui est posé sur chacun de nous, comme sur tous les humains qui traînent peut-être plus ou moins leur misère sur terre. J'ai vu, dit Dieu à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Au buisson ardent, il lui dit ça. Il faut découvrir ce regard d'amour, ce regard de compassion que Dieu porte sur nous, comme sur le Fils prodigue d'ailleurs. Depuis notre baptême, depuis que nous fréquentons intimement le Seigneur, nous pouvons reconnaître Jésus qui s'approche et nous pouvons l'entendre nous dire « Veux-tu guérir ?» Ce qu'il veut nous dire par là, c'est « Laisse-moi te guérir. Laisse, ton infirmité, c'est la mienne et ma résurrection, c'est la tienne. » Voilà, il nous tend la main pour qu'en la saisissant, il nous relève comme on le voit sur l'icône de la résurrection qui est présentée ici, comme chaque dimanche, comme tous les jours d'ailleurs pendant ce temps pascal pendant lequel nous nous trouvons actuellement. Ce que nous avons à faire, c'est symboliquement, c'est saisir cette main. Celle-là illustre exactement le mouvement de notre foi. Plus elle est ferme et solide, notre foi, et plus nous nous attachons vigoureusement à la main du Seigneur qui nous cherche. Notre foi, c'est de nous remettre à lui, de lui remettre tout notre être du fond de notre cœur, au-delà des sentiments. C'est ce mouvement de fond de notre cœur qui seul peut nous faire vivre, nous faire ressusciter avec Jésus. Il faut le vivre souvent durant nos journées pour apprivoiser notre nature, souvent rétive, l'apprivoiser jusque dans nos dernières cellules. C'est pas dans notre tête que ça se passe. Même dans le cœur, oui, ça se passe dans le cœur, mais pour que le cœur irrigue tout notre cœur, tout notre corps, pardon, et que ça jusque dans la dernière cellule de nos pieds, la plus lointaine, voilà, que tout soit irrigué par cette présence du Seigneur. En dehors de cette foi, l'Esprit Saint ne peut nous soulever, ne peut nous communiquer la vie en plénitude. Et vous l'avez remarqué, hors de cette plénitude, il n'y a pas de vie hors de cette plénitude. Et il n'y a pas de communion possible avec les autres, parce que nous restons dans notre ego. Et au niveau de notre ego, ben nous savons, nos relations, ce n'est pas toujours facile. Hein, voilà. Et donc je voulais insister sur ce premier aspect de cet évangile. Il y a un deuxième moment également important dans le récit de la guérison du paralytique. Il est dit en finale que cet homme, le paralytique, maintenant guéri, ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais plus tard, il le rencontre et il va dire aux Juifs, « C'est Jésus qui m'a guéri ». Il ne s'agit pas évidemment d'une dénonciation, mais d'un témoignage, d'une attestation. Le paralytique ne peut oublier celui qui l'a guéri et qui l'a rencontré. Pour toujours, son nom est dans son cœur. Et nous, voilà, nous sommes souvent portés à une certaine légèreté, à l'oubli. Et pourtant, si nous nous maintenons dans le souvenir de son nom, Dieu, le Père, il répand en nous son souffle, son Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, que nous allons fêter, nous allons commémorer à la Pentecôte. C'est lui qui va réveiller sans cesse notre mémoire pour nous faire intimement comprendre l'enseignement de Jésus, pour nous le rappeler, pour le faire vivre en nous et nous en lui. C'est l'Esprit Saint qui nous apprend toute la puissance de ce nom, Jésus, que nous ne cesserons alors de prononcer dans le secret de notre cœur, dans la prière de notre cœur. Quand il nous promet l'Esprit Saint, Jésus précise, « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu. » Voilà la transparence de l'Esprit Saint. Il ne dit rien de lui-même, mais tout ce qu'il entend du Père. Il nous le dit sans cesse. Et qu'est-ce qu'il entend, sinon le nom du Fils bien-aimé, l'unique engendré du Père, c'est-à-dire Jésus. L'Esprit Saint nous fait connaître celui qui nous demande « Veux-tu guérir ?» Il nous apprend à invoquer son nom, Jésus, ce nom par lequel le Père nous aime et nous donne la vie. Nous pouvons remarquer, c'est fréquent dans l'Évangile, que c'est un jour de sabbat et que Jésus bouscule la religion formaliste des pharisiens pour nous révéler ce qu'est le véritable sabbat. Ce jour-là, l'homme doit cesser de travailler alors que Dieu ne cesse jamais. Jésus dit, « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » C'est juste quelques versets après la péricope qu'on a lue. Le véritable sabbat, c'est de consentir à laisser le Père et le Fils agir. Et agir où ça ? Agir en nous. Et cela à son heure, si je puis dire. Savoir attendre patiemment, silencieusement, dans l'espérance. Alors quand on tient bon, quand on tient ferme dans la foi, on est déjà saisi par lui, on est déjà ressuscité pour chanter sa gloire. Le Christ est ressuscité.